la vente, etc. Mais Solers le dit bien dans ce livre-là, et un portrait de femme, et Dominique Rollin le dit très bien dans beaucoup de livres, il y avait toute cette expérience de leur vie à Venise, que Dominique appelait la ville étrangère, et cette chose assez extraordinaire, en effet, de deux écrivains qui peuvent écrire chacun à sa table dans la même chambre quand il ne fait pas beau, et quand il faisait beau, Dominique allait écrire sur le ponton, et Solers, lui, restait écrire dans la chambre. Mais justement, je pense que Dominique, c'était la femme qui pouvait, quand je dis personne ne connaît vraiment Solers, je ne sais pas si elle le connaissait vraiment, mais je pense qu'elle le comprenait vraiment, peut-être beaucoup plus que toutes les autres femmes de sa vie. Là, il y a beaucoup de femmes qui sont citées, mais d'autres qui ne sont pas citées. Il y a des femmes qui peut-être se sont reconnues dans des livres, il y en a peut-être qui se reconnaîtront dans Portrait de femme, il y en a peut-être qui ne se reconnaîtront pas, il y en a peut-être qui se reconnaîtront et qui ne seront pas contentes, il y en a peut-être qui se reconnaîtront et qui seront très contentes. Moi, je voudrais parler de celles dont j'espère qu'elles se reconnaîtront.
Mais auparavant, on va écouter la voix de Dominique Rollin.
Ça, c'est une très bonne idée.
Qui va parler de son travail d'écriture à Venise, son besoin de solitude aussi. C'est une archive du 5 juin 2000, Carnet nomade, Colette Fellouz.
Quand je suis à Venise, je travaille 3 heures par jour, le matin toujours. Et au moment où j'ai terminé le travail, toujours à la même heure, parce que j'ai une sorte d'horloge interne qui m'avertit, j'ai l'impression d'avoir voyagé. C'est vraiment toute une expédition que j'ai faite. Là-bas, ce qui est merveilleux, c'est que d'abord, il y a l'air libre. On a l'impression que le ciel collabore à l'écriture. L'eau collabore à l'écriture. Les mouettes collaborent à l'écriture. Les gens qu'on rencontre, qu'on ne connaît pas, ce qui est si précieux à Venise, c'est que je ne vois rigoureusement personne. J'ai besoin de solitude. Je trouve qu'on ne peut pas travailler. Enfin, il y a des gens qui adorent travailler en communauté ou avec une atmosphère d'amitié, même d'élan autour de moi. Impossible. Je me retire au fond d'un moi-même qui est encore un autre fond d'un autre moi-même. Je ne connais plus personne.
Et quand on lit votre journal amoureux, Dominique Rollin, on se dit qu'au fond, vous parlez de solitude et ce grand amour, c'est aussi celui qui réussit à maintenir deux solitudes qui sont là, qui écrivent, qui s'accordent et qui ne s'entament pas.
Non, qui se tournent le dos. Oui. Littéralement.
Oui, vous le dites à un moment, les bureaux se tournent le dos.
Non, mais parce qu'il est très rare de voir un écrivain supporter la présence de l'autre à côté de soi ou derrière soi. C'est presque phénoménal. Et là, dans ce cas-là, ça marche. Et au contraire, ça rapproche dans le silence, dans le mutisme, dans l'ignorance de ce que l'autre est en train d'écrire. Parce que je ne fais jamais lire mes manuscrits avant qu'ils soient terminés.
Dominique, sans aucun artifice, est restée très belle jusqu'à la fin de sa vie. Écrivez-vous, Philippe Solers, dans ce livre qui va être publié très prochainement, Portrait de femme. Elle a continué chaque jour à écrire sa page et à tenir son journal. Cette discipline explique sa forme, rêve raconté compris. Lorsque nous étions séparés, on s'écrivait chaque jour et ses lettres seront sans doute publiées. Les siennes, avec le temps, étaient de plus inspirées et fermes. Je la revois sans cesse à Venise, où son ombre plane en pleine lumière heureuse. Je l'ai accompagnée jusqu'au bout de façon déchirante. Je vis sous sa protection de fée, et si je lui demande de me faire signe, sa réponse est simple. Écris et je serai là. Et elle est là.
Que dire d'autre ? Les expériences dont je parle, celle-là principalement, mais aussi d'autres, c'est qu'on s'entend, ce qui paraît impossible. La guerre des sexes étant ce qu'elle est pratiquement impossible à surmonter. Mais c'est ça qui est intéressant, justement. C'est que la paix dans la guerre prend une proportion admirable. Ce sont des expériences de personnes qui ont un sens du temps tout à fait particulier, exagéré, si l'on veut. Enfin, tout le monde perd son temps. Hein, on est dans une époque où tout le monde perd son temps. Ah non, j'ai pas le temps. Ah, j'ai pas... Vous avez lu, ah non, j'ai pas le temps. Ah non, non, j'ai pas le temps, puis je suis débordé, puis j'ai pas le temps. Tout le monde est débordé, personne n'a plus le temps. Qui n'a plus le temps n'a plus de vie. C'est la mort qui vit. C'est plus... Dominique était absolument extraordinaire. Vous l'avez entendu dire qu'il y avait comme une horloge qui la prévenait de cet âge. Enfin, elle savait l'heure qu'il était sans avoir besoin de regarder l'heure, c'est-à-dire selon ce qu'elle avait fait, comme ce qu'elle appelait sa page. J'ai fait ma page, c'est un mot qu'elle répétait très souvent. Je lui remplissais son stylo le matin. Elle écrivait en général par beau temps sur un ponton à Venise. En collaboration avec l'eau, la lumière et les mouettes, comme elle le dit très très bien, avec sa très belle voix ronde et mélodieuse, comme son écriture était ronde et mélodieuse. Voilà, voilà une musicienne des mots avec le sens du temps. La musique, c'est quand même l'art du temps, vous comprenez? C'est-à-dire, si on n'entend pas la musique, ça veut dire qu'on n'entend pas le temps. Le temps avec un grand T, c'est le titre d'un de mes livres, d'ailleurs, qui s'appelle « Les voyageurs du temps », où elle se trouve ici, là et encore ailleurs, dans des moments très précis. Et Venise est une ville extraordinaire, si on sait s'en servir autrement que touristiquement, pour des petites histoires comme ça, rapide. Venise, c'est la ville où le temps vous est le plus, à mon avis, le plus sensible, depuis très très longtemps. Longtemps, longtemps, longtemps. Le temps.
Dans Portrait de femme, vous expliquez que votre emploi du temps, justement, pour parler du temps, votre emploi du temps à Venise, avec Dominique, était strictement codé et répétitif.
Absolument.
Tout était fait pour l'écriture, mais tout était fait dans une répétition nécessaire. Pourquoi ?
Parce que toujours
le même restaurant, toujours le même endroit pour écrire, toujours les mêmes promenades.
Parce qu'il ne faut pas perdre de temps. Si vous voulez être...
À découvrir autre chose.
Découvrir dans les premières années à Venise, on fait le tour de... Alors là, on se crève pendant 7 ou 8 ans. Mais au bout de 10 ou 15 ans, vous avez fait un peu le tour des curiosités, des églises, etc. etc. Là, il y a une concentration du temps, comme nulle part ailleurs, et tout à fait étonnante. Le temps qui est le grand maître. Voilà. Ne pas se sacrifier au temps, c'est perdre sa vie.
Josiane Savigno.
Ouais, je pense qu'il n'y a pas qu'à Venise que leur emploi du temps était très, très strict.
Oui, à Paris aussi.
Deux personnes qui avaient un emploi du temps même très strict. Et je crois que Solaire, ça a toujours un emploi du temps très strict.
Pas comment il vit.
Je ne sais pas moi non plus vraiment comment il vit. Mais je sais des choses. Je sais qu'il aime bien les rites, les répétitions. Par exemple, nous, on se voit souvent le soir à la même heure, au même endroit. On prend un verre ensemble. Ça,
voilà.
Je suis sûre que vous êtes du matin aussi.
Oui, bien sûr.
À quelle heure ?
Ça dépend, 6h, 7h.
Vous commencez la journée en lisant ?
Je commence la journée selon ce qui vient. Et ça peut être une lecture, ça peut être le fait que j'ai annoté 3 ou 4 nouvelles formules qui me sont venues, soit dans
le rêve.
Parfois, oui, souvent. Oui. J'entends quelque chose, donc je note. Puis après, voilà. Mais obtenir du temps à Paris, c'est héroïque. Il faut obtenir 2 heures d'écriture à Paris, toute une stratégie.
Parce qu'il y a votre rôle d'éditeur, il y a votre rôle de directeur de revue.
Il y a le jeu de rôle, tout ça.
Il y a beaucoup de Solaire.
Ça, c'est l'après-midi, oui.
Sociaux.
Solaire se démultiplie. Il le fait d'ailleurs à bon escient. Parce qu'il sait
mais
exactement...
le matin, c'est à vous.
Voilà. Mais obtenir 2 heures vraiment de travail du matin, ça veut dire 1 heure où ça peut ne pas marcher. Voilà, il faut s'échauffer.
C'est pour ça que le territoire de l'écriture, c'est Venise, mais c'est aussi
l'île de Ré. L'île de Ré, c'est ça. Mais pour avoir 7 heures, ce qui est un minimum, et vous voyez, il faut vraiment avoir un emploi de temps très, très strict.
Manger 7 heures très peu. À soi. Manger 7 heures de pourquoi
parce que.
Écriture et assaise,
il faut éviter les déjeuners, par exemple. Hein, à quoi pensent les intellectuels, les journalistes, les médiatiques, à déjeuner. Ils sont tout le temps en train de déjeuner. Vous n'avez pas remarqué? Si, ils déjeunent. Tout le temps.
Vous, non.
Non, parce que j'ai besoin de mon cerveau un peu l'après-midi aussi, pas pour faire la même chose. Enfin, voilà. Donc, je bois en fin de journée, pas avant.
Et vous buvez toujours autant?
Je bois de façon raisonnable ce que mon corps me demande, pas plus. C'est-à-dire du whisky, après, en général, un très bon vin de Bordeaux pour retrouver
votre histoire et
ma
votre maman.
Civilisation dans ce monde de brutes. Excusez-moi, je pleure.
Mais il se trouve que j'ai Journal amoureux sous les yeux et on parlait tout à l'heure du rire de Dominique, mais il n'y a pas que son rire, c'était aussi quelqu'un de très drôle et c'était quelqu'un qui rêvait beaucoup et elle notait ses rêves. Il y a d'ailleurs un très beau livre d'elle qui s'appelle Train de rêve. Et là, dans Journal amoureux, je trouve un rêve qui m'amuse beaucoup et j'ai trouvé deux petits passages, un sur le rêve et un plus grave, mais justement qui résout aussi une question. Autre rêve qui me laisse le souvenir d'un bien-être ravissant. Jim et moi sommes assis côte à côte dans un lit en compagnie d'une très belle jeune fille. Nous avons passé la nuit ensemble, heureux et reposés. Jim est installé entre elle et moi. Elle est enfantine, sensuelle et voluptueuse et ne nous prête aucune attention. Au milieu des draps mousseux et chiffonnés, elle met de l'or dans une petite corbeille pleine de jolies choses qu'elle tient entre ses genoux. C'est magnifique, non ? Et du coup, il y a un très beau passage que j'avais retrouvé quand j'ai écrit sur Dominique quand elle a eu la mauvaise idée de mourir. Et je ne l'ai pas retrouvé là, mais j'ai retrouvé deux phrases sur la mort qui me paraissent définitives. Adieu mort. Les amoureux sont inventés pour te renier. Sois raisonnable, fous le camp, ils ont gagné leur pari, eux.
Ah oui. Oh. Son surnom, à un moment donné, c'était Onirik Rolla. Parce que l'histoire des rêves, c'est quand même étrange. Parce que c'est de la voyance, en quelque sorte. Et ce qu'elle dit tout le temps, c'est, voilà, j'ai fait un rêve, mais ce rêve a été dicté, je peux le recopier simplement. Et elle le faisait tous les jours.
Oui. Comme Victor Hugo. Oui.
Là, c'est Huga, donc c'est beaucoup plus beau qu'Hugo, parce qu'elle n'était pas à table tournante du tout, n'est-ce pas ? Donc c'est très, très rationnel, très précis, et avec une sensualité joyeuse, hein, pas de bouche d'ombre, etc. Mais alors, le coup d'écrire les rêves directement, c'est quand même étrange, très... Les recopier. Elle me dit, je ne les écris pas, je les recopie. Et donc, il y a un livre qui s'appelle Train de rêve, qui est très, 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 très drôle, parfois aussi.
Josiane Savigno vous a posé une question à laquelle vous n'avez pas encore répondu. Philippe Solers, pensez-vous que vous avez été influencé par l'écriture de Dominique Rollin ?
J'ai pas été influencé par son écriture du tout. J'ai été influencé par sa personne. Sa personne est aussi
ça peut rejaillir dans son écriture
peut-être. Non, parce que je crois que c'est moi qui l'ai dérangée lorsqu'elle était un peu plus conventionnelle. Elle était membre du jury féminin, ce qui me paraissait absolument ridicule lorsqu'on s'est rencontrés. Et elle a été vite exclue parce qu'elle s'opposait aux vieilles toupies locales et à leur ronron social idiot. Donc elle a été exclue, il faut le souligner. Elle a été exclue du jury féminin, n'est-ce pas ?
Elle est la seule à avoir été exclue.
Absolument.
Il faut dire qu'elle avait écrit un article assez sévère sur les manips et les conventions du jury. Article où, sans doute relu par Solers, ils ont bien dû s'amuser tous les deux.
Voilà. On s'est amusé beaucoup. Et c'est moi qui l'ai quand même dérangée dans son écriture. Donc elle est venue vers moi et moi je suis allé vers elle très, très, très naturellement.
Ça lui a valu au début des ennuis de la part de certains critiques qui étaient désarçonnés. Par exemple, dans Le Monde, le critique assez conventionnel disait, j'ai retrouvé un article d'Émile Henriot sur Dominique Rollin qui disait qu'il était vraiment, c'était un écrivain d'une grande stature, mais qu'il était un peu désarçonné. Mais ça, c'était, je voudrais dire un mot justement des critiques d'autrefois. Parce que finalement, ces critiques d'autrefois, on peut les regretter. C'était des gens qui se posaient vraiment des questions. C'est-à-dire qu'au lieu de dire que ce qui aurait été maintenant, Dominique Rollin est passé quasiment au nouveau roman, on n'y comprend rien, et hop, on jette. Il disait, ça m'intrigue, ça me désarçonne, j'essaie de comprendre, etc. Ce même Émile Henriot a fait une critique de Drame de Solers. Et Drame, c'est intéressant parce qu'il est dédié à Dominique de manière oui, détournée. Et au lieu de dire, c'est ça, au lieu de dire, alors on n'y comprend rien, les phrases. Ce que les gens disent maintenant, en essayant pas d'aller au fond, et finalement ces vieux critiques conventionnels qui écrivent d'une manière qui nous déplairait aujourd'hui, au moins se poser les vraies questions sur qu'est-ce que je lis.
Pas tous.
Qu'est-ce qu'une femme, Philippe Solers ?
Lacan avait l'habitude de dire, que je trouve, en écoutant le rêve avec la jeune fille...